Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros. Ensuite, parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connue revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs. Des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, il est celui qu'on appelle quand on a besoin d'apaiser les tensions dans un quartier. Regard profond et tendre, il parle de sujets qu'il connaît avec passion et détermination. Ses discours ressemblent à tout sauf à de la morale. On pourrait l'écouter des heures tant ce qu'il dit est dit avec le cœur et les tripes. Casquette aussi incontournable que son sourire, voix reconnaissable à travers mille. Adama Camara est mon invité. Comment ça va, Adama?
Ça va et toi?
Bah ça va, ça se passe.
Belle intro, merci beaucoup.
Bah super content de te recevoir.
Merci pour l'invite déjà et cette intro qui me touche. Merci.
Bah, je t'en prie, on essaie de travailler les intros tout le temps. Non, c'est mon moment de l'émission. Quand elle est réussie, le reste, ça y est.
Ouais, c'est clair. Merci en tout cas pour l'invite.
Bah, je t'en prie. J'ai l'habitude avec mes invités de faire une jingle fiche d'identité. Ouais. En gros, c'est une fiche d'identité, on va la remplir ensemble. Toi, tu es la fiche d'identité numéro 141-069-10. Je sais que ça peut ressembler à un numéro d'écrou. Il y a Aziz Aboudrar qui me l'a fait remarquer une fois.
Je vais le dire, on dirait un numéro d'écrou là. Je suis rentré au placard, ça y est, on est de retour.
On est en détente. Ici, nom, prénom ou pseudo?
Bah écoute, moi c'est Adama Camara. Hein. Adama Camara, pseudo, plus jeune, on m'appelait Sansan. Hein. Les anciens de chez moi, ils m'avaient baptisé Sansan.
Pourquoi Sansan?
Sansan, par rapport à tout ce qui est arts martiaux, Dragon Ball Z et compagnie. Mmh. Donc Sansan. Donc voilà.
Date de naissance?
02-09-88.
Lieu de naissance?
Paris 18e.
Profession?
Intervenant, auteur sur tout ce qui est RICS Interquartier aujourd'hui.
Passion, hobby?
Le foot. PSG. J'espère qu'on ira. On va passer les demi.
Ah, on est Marseillais ici.
On est parisiens. J'espère vous aussi, vous allez passer les demi.
On le
donc,
souhaite.
Ouais, vraiment le foot, la musique aussi. Beaucoup, j'adore le rap. Le rap, tout ce qui est texte, écriture, j'aime beaucoup. Et ouais. C'est tout, en passion, on va dire.
Talent caché,
ancien, on va dire, footballeur.
Ancien footballeur.
Futsal, longtemps ouais. Joué au foot en salle. Longtemps joué au foot en salle. Et ouais, il me reste encore des restes, je pense, même si j'ai pris du bide. Ça va.
Lieu de résidence,
toujours la même, Garges-lès-Gonesse, dans le 95, dans le Val-d'Oise.
Réseaux sociaux,
Adama Camara, sur TikTok, Insta, Twitter. Récemment, j'ai réouvert mon Twitter. J'ai vu que c'était speed hein, quand même, Twitter.
Ah, Twitter, c'est speed.
Et Facebook aussi, Snap, voilà, dispo un peu partout.
Elle se passe comment, l'enfance d'Adama Camara?
Mon enfance, en fait, j'arrive à Garges à l'âge de 5 ans parce que j'habitais à Paris dans le 18e longtemps. Du moins longtemps, pendant 5 ans. Et quand j'arrive à Garges, forcément, quand on arrive, c'est tout nouveau pour nous. On a un logement social qui est plus grand que le petit, on va dire, Kajibi dans lequel on vivait à 3. Et du moins à 6 avec mon dernier petit frère qui venait d'être né. Et une enfance, on va dire, un peu paisible, un peu beaucoup quand même de la misère sociale. C'est vrai que les années 90, c'était compliqué. Mais sinon, toujours une enfance tranquille, on va dire, beaucoup aimer des parents, parce que ça, c'est important aussi dans la construction. C'est que les parents, malgré qu'ils n'ont pas grand-chose, ils nous donnaient beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc voilà, une enfance comme dans les quartiers populaires.
Et comment il se manifestait l'amour qu'il te donnait tes parents? Parce que j'ai reçu beaucoup d'invités qui m'expliquaient que on a cette surtout chez les Westaf, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, on a cette pudeur au niveau des sentiments. On aime, mais on le manifeste pas forcément de la bonne manière. Comment ça se manifestait chez toi?
C'est clair que nos parents ne savent pas dire je t'aime, mais ils nous le montrent à leur manière. Comment ils nous aiment, c'est qu'ils prennent soin de nous. Ouais. Ils prennent soin de nous même quand on va à l'école, toujours nous faire la petite coupe, vérifier qu'on est bien habillé, qu'on s'est bien douché, etc. Nous demander comment s'est passée la journée, parfois des petits câlins le soir, le fait de manger. Pour moi, l'amour aussi, quand on mangeait dans un bol, aujourd'hui, on mange chacun dans des assiettes, nous, on mangeait dans des bols, on était à plusieurs à la main. Et je pense que tout ça, ça fait partie de l'amour que les parents nous ont donné. Inculquer les vraies choses de la vie dès le plus jeune âge, même si après, plus tard, on a fait des choix, mais nos parents nous ont toujours aimés, bien éduqués.
Et ta relation avec tes frères et sœurs, c'était laquelle? Bah, d'ailleurs, tu te classes combien, toi, dans la fratrie?
Moi, je suis le cadet, j'ai un grand frère. Donc, du coup, moi, je suis le deuxième d'une fratrie de 8. Et dès le plus jeune âge, mon père, il nous a toujours dit, quoi qu'il arrive plus tard dans la vie, n'oubliez pas que vous êtes de la même famille. C'est les liens de sang. Donc, on a vraiment une relation vraiment forte avec mes frères et sœurs. Parce que malgré que des fois, on peut se prendre la tête, on peut ne pas se parler pendant quelques semaines, il y aura toujours un qui va dire « N'oublie pas ce que papa il nous disait, le lien ». Ça veut dire on peut ne pas être d'accord, on peut s'embrouiller, ça arrive, mais n'oublions pas qu'on est quand même de la famille. Et quoi qu'il arrive, on restera quand même de la famille. Donc, on a une belle relation avec mes frères et sœurs.
Et à l'école, ça se passait comment? Tu étais quel genre d'élève?
Bah, l'école, c'était assez compliqué parce que moi, je savais pas lire, clairement. Pourtant, je suis né en France, hein, j'ai grandi ici. Je savais pas lire à cause d'un problème qui s'appelle la dyslexie. Donc, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Moi-même, plus jeune, je ne savais pas. Je pensais que j'étais un peu nul. Je pensais que c'était pas fait pour moi. Mais c'est que seulement plus tard qu'on a diagnostiqué que j'étais dyslexique. Donc, la lecture compliquée. Donc, vu que la lecture, c'est l'ouverture de tout, forcément, quand on n'arrive pas à lire, on comprend pas. Et quand on comprend pas, on est perdu. Au milieu d'une classe qui se met tout le monde à travailler, toi, tu es là, tu regardes la feuille du voisin, tu essayes un peu de t'en sortir. Donc, moi, c'était par la ruse. Par la ruse, j'essayais d'apprendre des choses mémorisées. Moi, c'est pour ça, apprendre un texte par cœur, je le fais rapidement parce que même... Admettons, j'en ai un exemple, quand j'arrive au collège et que je ne sais toujours pas bien lire, quand je savais que c'était à mon tour de lire, je vais compter le nombre d'élèves qui va passer. Et quand il y aura mon paragraphe, moi, dès qu'il commence, moi, je commence à apprendre à le lire tout doucement et de le mémoriser. Et donc, j'ai une mémoire un peu speed. Et après, je mémorise. Et après, quand on me donne la Adama, c'est à toi de lire. Donc, je le lis rapidement. Donc, les gens ils pensent que je sais lire. Comment je me faisais avoir, c'est quand le prof, par surprise, il me dit « Adama, tu lis ?» Pour éviter que de montrer que je ne sais pas lire, je disais « Non, je n'ai pas envie de lire. » Donc après, ça peut causer des problèmes, même au niveau de l'autorité, parce que les profs vont dire « Oui, Adama, quand on lui demande de faire quelque chose, il ne veut pas, c'est que volontariat. » Mais eux, ils ne savaient pas, parce que moi, j'avais honte de leur dire que je ne savais pas lire, que du moins, je galérais à lire.
Et il n'y a personne qui a remarqué ça avant? Il n'y a aucun professeur qui s'est dit...
En primaire, un peu, ils avaient remarqué un peu en CE2. Je voyais vite fait une orthophoniste, on va dire, en CE2. Je ne savais même pas ce que c'était une orthophoniste. Et après, ça s'est arrêté. J'ai dû avoir peut-être 2 séances après fin, quoi. Après, je me suis dit, c'est peut-être moi le problème. C'est peut-être moi qui ne mémorise pas, qui ne comprends pas. Donc, ça m'avait beaucoup démotivé au niveau de ma scolarité parce que je ne comprenais rien. Et en quatrième, je ne sais pas, d'un coup, j'ai su un peu mieux lire. Et voilà. Mais c'était déjà trop tard en quatrième. Tu apprends à lire en quatrième, tu es déjà largué. Ouais. Donc, c'est compliqué.
Et c'est à quel âge que tu comprends exactement que tu es dyslexique? Est-ce qu'il y a un âge où tu comprends ça? Ou c'est beaucoup plus tard beaucoup dans plus ta tard, vie d'adulte?
C'est beaucoup plus tard. C'est même quand j'ai commencé à écrire mon livre. Et quand j'étais avec mon éditeur qui s'appelle Maïr chez JC Lattès, et on était en train de faire la relecture, et il a capté lui directement dans ma relecture que... Il m'a dit « T'es pas dyslexique toi ?» J'ai dit « Ouais, je pense, parce que j'ai déjà entendu ce terme-là. » Et quand je regardais la définition, je me suis dit « Ouais, en fait, c'est ce que j'ai. » Après, j'ai vu une orthophoniste qui m'a dit « Ouais, effectivement. » Elle me dit « Je trouve bizarre que depuis plus jeune, on ne l'a pas détecté. » Je dis « Écoutez, c'est la vie, hein, mais aujourd'hui, on fait avec. »
Et comment t'expliques que les professeurs ils l'ont pas détecté? Est-ce que c'est un manque d'attention? Est-ce que c'est parce que, comment on
non,
peut
moi,
ne
je
pas remarquer
qu'un je élève... peux pas accuser les profs parce que déjà ils ont plein d'élèves, De un, et de deux, je le cachais aussi. Donc, quelqu'un qui cache, on va dire, je ne vais pas dire une maladie, parce que c'est handicapant quand même, si je le cache, ben, ils ne peuvent pas le deviner. Après, oui, ils peuvent se dire, oui, c'est quand même bizarre qu'à chaque fois, on lui demande de lire quelque chose ou autre, il refuse, mais quand tout le monde le fait, il le fait. Bon, après, voilà, en tout cas, c'est vrai que ça aurait pu être détecté plus tôt, même au niveau de mes notes. Même au niveau de mes notes, c'était assez faible. Donc, on aurait pu aussi dire, voilà, Adama, il peut faire mieux.
Et à la maison, t'en parlais avec tes parents, tes frères et sœurs ou pas du tout?
Bah, mes parents, non, j'en parlais pas trop. Ma mère, qui sait pas lire non plus aussi. Donc, mon père qui savait lire, qui savait écrire, je lui en ai pas parlé aussi. Je dis oui, j'ai des difficultés, mais j'ai pas approfondi ce sujet-là.
Tu le disais, tu commences à apprendre à lire en quatrième. En tout cas, en quatrième, c'est
En
beaucoup
quatrième,
mieux.
c'était plus fluide, ouais.
En troisième, on sait qu'il y a le choix déterminant pour la suite de nos études.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut choisir entre bac pro, bac général, technologie ou faire un CAP, BEP. Peut-être à l'époque,
Bien
vous
sûr,
aviez un peu
ouais,
plus
c'est ça.
d'options. Quel choix, toi, tu fais? Est-ce que c'est quelque chose que tu choisis ou c'est quelque chose qu'on t'impose finalement?
Bah, tu sais, même quand on arrive en troisième, on n'a pas réellement la maturité des fois de savoir où est-ce qu'on ce qu'on veut faire dans la vie. Et là, on doit être orienté. Le souci, c'est que dès la sixième, normalement, on doit préparer les élèves à se dire, en troisième, vous allez devoir choisir, même si on nous le dit vaguement. Moi, quand j'arrive en troisième, les choix, en fait, j'ai mis bac BEP vente. Vente action marchande, tu vois, je me suis dit, bon, allez, je vais aller en vente. Je suis un tchatcheur un peu, je vais savoir. En fait, j'ai été dans la vente sans réellement être intéressé ou être intéressé par la vente. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve un lycée. Donc voilà, j'ai commencé ma première année. La deuxième année, je n'ai même pas passé le BEP. Parce qu'entre-temps, j'ai trouvé un taf, je voulais travailler et quitter le cursus scolaire.
Et comment t'expliques, parce que là c'est quelque chose du coup qui me frappe quand toi
Ouais.
t'en parles, comment t'expliques que pratiquement tous les enfants avec un peu la même trajectoire d'enfance issus de l'immigration, ils choisissent de faire un BEP vente? Parce qu'il y a Bayoussard qui me disait la même chose, il y a Abid deux fois qui me disait je savais pas trop quoi faire, du coup je suis parti en BEP vente. Pourquoi on fait ce choix-là? Parce que même moi du coup j'ai fait un bac pro commerce, quand on sait pas trop quoi faire, on va dans ce domaine-là. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu as une explication d'ailleurs à
Moi,
ça?
j'ai pas d'explication, mais moi, en tout cas, pour mon explication personnelle, je me suis dit, la vente, ça va me permettre de travailler. Parce que même plus jeune, moi, je travaillais entre guillemets au black avec les grandes chez moi qui faisaient les marchés. Donc voilà, la vente, vendre des paires de chaussures, vendre des survêtes, je me suis dit, j'ai déjà, voilà, la tchatche, la démarche commerciale, je l'ai déjà. Donc je me suis dit, bon, je vais choisir cette voie-là. Plus tard, je vais peut-être être vendeur et ça va m'apprendre à développer peut-être la parole, etc., le dialogue. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Pour moi, personnellement, je me suis lancé dans ça pour ça. Je ne me suis pas dit, voilà, il y a eu des choix, d'autres choix qui, je me suis dit, ça allait être trop compliqué pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas la vente? C'était peut-être la sécurité pour moi. Je me suis dit, bon, la vente, au moins, j'ai une petite expérience, peut-être que je vais me lancer, ça va le faire.
Et tu te rends compte que finalement c'est pas fait pour toi.
Non.
Comment tu t'en rends compte et c'est quoi le choix derrière? Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes du coup, tu disais les études. Est-ce que tu reprends une autre formation ou tu bifurques complètement ailleurs?
En fait, je comprenais tout et rien, quoi. En fait, c'est que quand tu as accumulé tellement de lacunes et tu arrives au lycée, tu as un niveau, on va dire, cinquième ou quatrième, c'est compliqué de
C'est
tout
chaud.
rattraper. C'est que tu es largué. Donc, quand tu es largué, eux, ils te parlent en mode, tu as le niveau du lycée, mais toi, tu sais qu'au fond de toi, tu as un niveau encore de collégien. Donc, tu es vite largué par certains cours et tu es saoulé. Donc, du coup, tu vas en cours pour attendre le temps passer et passer à autre chose. Donc, après la scolarité, la première année, je me suis un peu plus ou moins sorti. La deuxième année, je suis arrivé à un âge où j'avais presque 17 ans, 18 ans, bientôt. Je me suis dit, moi, mon objectif, c'est passer mon permis et travailler. Moi, je voulais avoir de l'argent plus jeune, très tôt. Je me suis dit, il faut que je travaille. Donc, quand j'ai eu la possibilité de rentrer dans un magasin qui s'appelle Carrefour, qui était à côté de chez nous à Stains, j'ai eu la possibilité par un ancien ami à moi qui m'a pistonné, clairement, j'ai foncé. J'ai foncé, j'étais on va dire préparateur de rayons. Donc j'avais des palettes et tout, je rangeais les rayons. Et j'ai commencé comme ça, le temps de me payer mon permis. Parce que moi,
Ok,
l'objectif vraiment,
c'était d'avoir le permis.
c'était dans mon objectif d'avoir le permis pour pouvoir après travailler ailleurs. Après, j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai travaillé dans le déménagement, chauffeur-livreur, beaucoup, beaucoup de livraisons j'ai fait, bah, jusqu'à l'incarcération, quoi.
Et c'est lequel le métier où tu as le plus appris?
Bah, le métier où j'ai le plus appris, c'est quand je travaillais dans une petite boîte qui faisait de la livraison à domicile, mais pour les personnes âgées. Et j'ai livré beaucoup de mamies qui étaient dans des grandes maisons seules. Et qui, des fois, le fait de voir un livreur arriver, tu sais, il y avait de l'humain quand même. Parce que tu prenais le temps d'un café. Moi, des fois, il y a des mamies, elles m'attendaient déjà avec le café, parce que moi, j'adore le café. Donc, et je prenais le temps de discuter avec. Et je me disais, c'est triste, à part des infirmières et des livreurs, aujourd'hui, ils ne voient personne, alors qu'ils ont de la famille. Et même une vieille un jour qui m'a dit, tu sais, tu vois, ma maison, elle est grande, j'ai une belle maison, et je sais qu'on n'attend qu'une chose, c'est que je meure pour avoir l'héritage, mais je pense que mes enfants vont être surpris. Et cette phrase-là m'a choqué parce que je me suis dit, elle était tellement triste, cette dame, elle était bah, résignée, quoi. Elle se disait que mes enfants ne prennent même pas le temps de venir me voir, ils attendent qu'une chose, c'est que je parte pour avoir l'héritage. Donc humainement, ça, j'ai appris que ouais, moi, je me dis, moi, je pourrais jamais laisser ma mère seule,
Non.
ni en maison de retraite ou autre, quitte à, je m'en occupe toute la vie, je préfère le faire parce que c'est triste de voir des personnes en fin de vie, tout seules, alors qu'ils ont de la famille.
Et elle ressemblait à quoi tes journées en dehors de l'école? Collège, lycée, tu
Bah,
faisais
mes
quoi?
journées, j'étais beaucoup au quartier, avec le sport, le foot. J'étais entraîneur aussi, de foot. Du moins, j'entraînais les plus jeunes, les poussins, c'est-à-dire ceux qui avaient 10-12 ans. Je les ai beaucoup entraînés. J'étais beaucoup au quartier. Après, je me suis lancé dans le rap à 17 ans. Pourquoi j'ai fait de la musique? C'est parce que quand mon grand frère il est parti en prison, en fait, l'incarcération d'un frère, c'était la première fois dans notre famille de voir ma mère pleurer tous les jours, être triste. De là, j'ai dit à mes potes, ouais, j'ai envie de faire un son pour parler de tout ça, qui s'appelait Dure Réalité, où j'ai raconté, en fait, c'est dur de voir sa mère pleurer parce que toi, tu es en détention, etc.
Et comment
Donc,
toi tu l'as vécu à titre personnel? Après on reviendra sur ton incarcération après, mais comment tu l'as vécu toi l'incarcération de ton grand frère? Est-ce que ça marque le premier vrai gros événement de ta vie ou il y en a eu d'autres avant?
non, c'est le premier gros événement de ma vie parce que il est incarcéré pour 6 mois. De voir ta mère pleurer tout le temps, de pouvoir de se dire faut que tu lui ramènes du linge, d'aller au parloir, tu t'imagines plein de choses quand t'es pas en détention, de dire ouais il est enfermé dans une cellule, etc. Donc forcément ça te touche, forcément ça te fait du mal, surtout à chaque sortie de parloir tu vois le même résultat, tu vois que des mamans qui sont là qui vont voir leur fils incarcéré. Et quand tu rentres à la maison, toutes les questions que ta maman te pose, elle te dit alors comment il va? Est-ce qu'il a maigri? Tu vois, tu sens l'inquiétude de la maman et la tristesse, tu te dis c'est terrible, c'est dur.
Il y a ensuite toi qui seras incarcéré un peu plus tard.
Ouais.
On va revenir, hein. T'as un petit frère, Sada.
Ouais, c'est ça.
Il est mort un samedi soir de 2011 à 18 ans devant
Ouais.
une gare à la suite d'une rixe entre jeunes.
C'est ça.
En plus, ses meurtriers, ce sont des amis à lui. Ça part d'une prise de tête et embrouille qui dégénère. Comment toi, t'apprends le décès de ton petit frère? Et je suppose que ça va marquer le deuxième gros événement de ta vie. Et comment tu vis ça?
Effectivement, en fait, mon petit frère Sada, à l'époque, il avait 18 ans. C'est que quelques semaines après, il s'est embrouillé avec un ami d'enfance. Souvent, au quartier, on a l'impression que les embrouilles, elles ont tout le temps une cause. Des fois, on dit oui, ils se sont embrouillés à cause d'une fille, à cause du terrain, à cause de pas mal de choses. Mais là, c'est vraiment une embrouille d'ego parce qu'ils se sont pris la tête sur un truc. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne le sais même pas parce que j'ai mené mon enquête. Même la personne qui était concernée m'a dit non, on s'est embrouillé pour de la merde. Désolé du terme. Mais après, il y en a un qui crie plus que l'autre. Et de là, ils se sont battus. Ils ont fait un tête-à-tête. Mon frère, il avait gagné. Donc après, ils se voyaient au quartier, ils ne serraient plus la main. Et un soir, forcément, quand il y a quelqu'un qui gagne, il y a forcément quelqu'un qui perd. Et celui qui perd, s'il n'accepte pas, il va vouloir une revanche. Et ce soir-là, ils se sont revus, ils se sont battus. Mais ce soir-là, ils étaient deux contre mon petit frère, dont un qui avait un couteau et qui l'a planté. Donc mon frère, il est mort sur le coup. Donc moi, je suis chez moi dans la nuit de samedi à dimanche. Et à 2h du matin, on sonne à mon domicile pour m'annoncer que mon frère s'est fait tuer. Et donc forcément, tu n'y crois pas parce que tu te dis, mais non, mon frère, je l'ai vu ce midi, comment tu peux me dire que là, il est mort? Et quand tu arrives sur les lieux et que tu vois un drap blanc par terre, un dispositif de police, c'est à ce moment que tu te rends compte que malheureusement, c'est vrai. Et ça, c'est un événement de ma vie qui a changé totalement ma vie parce que avant cet événement-là, moi, j'avais beaucoup de projets. Je voulais me marier avec mon ex parce que ça faisait peut-être 8 ans qu'on était ensemble. Je voulais voilà faire des enfants, etc., faire ma vie. Et cet événement-là a tout basculé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis, quand on tue une personne, derrière, on tue toute une famille parce que c'est tout le monde qui est bouleversé, c'est toute une famille qui est touchée. Et surtout de voir la tristesse encore pire que quand on est enfermé. Parce que quand tu vois ta mère qui est par terre, en fait, qui est écroulée par terre, et t'as même pas la force de relever ta mère qui reste par terre. C'est des scènes choquantes. Et derrière, tu vois les pleurs, les cris des personnes qui viennent à la maison, préparer les obsèques, aller à la morgue, reconnaître le corps. Tu sais, t'as 23 ans, tu vis tout ça, tu te dis c'est violent. Même si tu es un grand gaillard, tu es quand même jeune. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. La mort d'un proche, comment vivre avec, comment l'accepter. Donc, c'est des événements qui te choquent, qui bouleversent toute une famille. Et te dire, ouais, l'enterrement, aller choisir un cercueil, c'est violent, tout ça. On n'est pas préparé. Demain, on dit, il faut que tu choisisses le cercueil, lequel tu vas choisir pour mettre ton frère ou un membre de ta famille. C'est trop violent. Et donc, tous ces événements-là ont fait que derrière, après, tu t'enfermes dans de la colère, dans de la tristesse, tu perds goût à beaucoup de choses, t'as plus envie de rien faire. Donc, pour pas faire souffrir mon ex, moi, je lui ai dit, c'est terminé. Quelques mois après, je savais qu'elle allait mal vivre avec moi, je me suis dit, c'est terminé. Elle voulait rester, elle a insisté, mais moi, j'ai vraiment coupé court, je suis parti. Après, j'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu quitter la région parce que je me suis dit, si je reste dans le coin, je sais que je vais faire quelque chose, je sais que je vais faire une dinguerie parce que je me connais. J'ai été jeune, j'étais dans les embrouilles, je connais mon tempérament. Donc, mes parents ils m'ont déconseillé de me venger. Donc, du coup, si je reste là, je sais qu'un jour, je vais passer à l'acte. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter que ceux qui ont tué mon frère ils sont en prison, que leurs frères ils font des barbecues au quartier et qu'ils vivent comme si de rien n'était. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai préféré partir. Mais comme on dit, tu peux pas construire une vie quand tu as des plaies ouvertes. C'est très compliqué. Donc, même quand je quitte la région parisienne, je m'installe dans le 27, dans l'Eure. Après, je rencontre une nouvelle petite amie. On s'installe ensemble. Entre-temps, j'ai une fille qui est née. Donc, je suis content. Mais tu sais, chaque année, il y a une chose qui te ramène à la réalité. C'est que chaque année, il y a des anniversaires. Chaque année, il y a des fêtes de fin d'année. Chaque année, il y a des fêtes religieuses. Et chaque année, tu sais qu'il y a une chaise qui est vide. Tu sais qu'il manque quelqu'un. Donc, forcément, tu es triste, tu es en colère. Et après, je me suis dit, pour aller mieux, il faut que je me venge. Il faut que je fasse quelque chose. Jusqu'à ce moment-là, je suis passé à l'acte. Je me suis procuré une arme. Et après, je me suis dit, ceux qui ont tué mon frère, ils sont en prison, ils ont des frères dehors. La loi du quartier, malheureusement, elle dit que toi, si tu par tous les moyens, on va essayer de t'impacter. On touche pas les femmes, mais tes frères, ils vont prendre. Dont le grand frère, que c'était aussi mon pote de base, c'est mon ami d'enfance. Même quand on a perdu notre frère, moi, je pensais qu'il allait peut-être venir ou envoyer un message pour dire condoléances. Il l'a pas fait, il s'est aligné derrière son frère. Moi, demain, un de mes frères, je le souhaite pas. Mais si un de mes frères commet quelque chose de terrible, ça reste mon frère, mais je peux pas cautionner, m'aligner derrière mon frère. Dire ouais, c'est le sang. Non, quand le sang il fait n'importe quoi, il faut dire oui, c'est mon sang. Mais là, il a déconné et je suis pas en accord avec ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre des parents qui ont des enfants meurtriers. Ils te le disent, ça reste mon enfant, mais je cautionne pas ce qu'il a fait. Je ne suis pas pour. Et donc voilà, et donc du coup, un soir j'ai croisé le grand frère, j'ai fait usage de mon arme à feu sur lui, je l'ai blessé grièvement avec des amis à lui, et dans la foulée j'étais incarcéré.
Ouais, t'es incarcéré en août 2014,
En
t'es
août
placé en
2014,
détention provisoire.
ouais, c'est ça, on me place en détention provisoire, et le choc carcéral. Parce que tu sais, quand tu t'entends, oui, un tel il est en prison, t'as des frères en prison qui te racontent, tu vois tes potes, ils sortent de prison, ils sont costauds, tu te dis, ça ne doit pas être si dur que ça, parce qu'il y en a, ils vont te vendre la prison. Ouais, moi, j'ai fait ma peine sur une jambe. Mais quand tu arrives en détention, déjà, le premier choc, c'est l'humiliation. Parce que c'est tout le temps, quand ils veulent, c'est fouille à poil. Déshabille-toi, mets-toi à poil devant 3 hommes, devant 3 personnes. qui te disent « mets-toi à poil, retourne-toi tous, lève les jambes ». Donc ça, c'est une première humiliation. Après, on te donne ton paquetage arrivant, drap, serviette, produit hygiénique. Après, dans la foulée, on te fait les photos, les empreintes, un numéro d'écrou. Après, direction la cellule. Et direction la cellule, c'est quand tu arrives en cellule, tu ouvres ta cellule. Ils ouvrent la cellule parce que tu n'as pas de clé et il y a quelqu'un qui est déjà dans la cellule. C'est-à-dire que tu vas commencer à te dire « je vais cohabiter avec quelqu'un que je ne connais pas ». Je vais passer 22 heures sur 24 avec un mec que je ne connais pas. Et quand tu rentres dans la cellule, tout est dans la cellule. Tu as tout de suite à droite, moi j'avais un évier. Collé à l'évier, tu as des toilettes. Et juste après, collé aux toilettes, avec un petit mur qui sépare, tu as un lit superposé. Mmh. En face, tu as la télé, une armoire. En fait, tout est condensé dans une pièce, 9 mètres carrés. Et tu te dis, tu vas passer 22 heures sur 24 avec lui. Donc, si tu es en déprime ou il est en déprime, bah, tu vas le voir, il va le voir. Si tu as envie d'aller aux toilettes, lâcher un numéro 2, bah, même s'il ne le voit pas, il va le sentir. Tu vas sentir aussi quand il va aller aux toilettes. Donc, c'est ça la réalité carcérale. Et ça, ça m'a choqué. Et surtout quand on claque la porte derrière et que c'est au bon vouloir du surveillant ou quand il y a une promenade ou un problème, on ouvre ta cellule. Sinon, tu es enfermé.
On va juste revenir un tout petit peu en arrière, juste avant de parler de la vie en prison, parce que comment tu le décris, c'est super intéressant. On nous le décrit pas forcément comme ça à la prison. Entre toi et Sada, il y a 5 ans, ouais. Est-ce que vous avez des frères entre toi et lui ?
Oui, bien sûr. Bah, moi, je suis le second. Après, j'ai un petit frère. J'ai un petit frère qui s'appelle Daouda, qui est juste après moi. Mmh. Après, il y a eu Sada. Et après, il y a Moussa, Aminata, Kadi et Ibra.
Et c'est toi qui prends le choix de la vengeance, c'est toi qui fais le choix de la vengeance.
Ouais.
Comment t'expliques que c'est toi qui ai fait ce choix-là ? Est-ce que dans la fratrie, ça en a discuté ? Est-ce que les autres aussi, ils avaient cette idée-là en tête ?
Bah, effectivement, c'est vrai que tous mes frères, on avait cette envie de vengeance. Pourquoi moi, j'ai pris, on va dire, le pas et j'ai fait ce que j'avais à faire ? Parce que tu sais qu'en tant que grand frère, t'as comme cette culpabilité, cette responsabilité. Et souvent, dans des familles, nombreuses ou pas, les grands frères, on va dire, ils se substituent souvent aux deuxièmes parents. Tu sais, demain, tu perds un membre de la famille, ton père ou autre, c'est toi qui prends la responsabilité en tant que grand frère. Et moi, j'avais cette culpabilité en me disant, j'ai pas protégé mon petit frère. J'ai pas su le protéger. Si les gens l'ont tué, c'est que peut-être ils nous respectent pas. Pourtant, on a fait beaucoup pour ce quartier. Quand on avait des embrouilles ou quand il fallait faire des bonnes actions, j'étais toujours en première ligne. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, je suis trahi par mon propre quartier ? Je suis trahi par des personnes qui mangeaient chez moi, des personnes où je mangeais chez eux. Donc, j'avais tout ça, moi, qui rentrait dans ma tête et j'ai vrillé.
Du coup, on le disait, la prison, tu es incarcéré en août 2014, comme tu le rappelais. Tu vas passer quand même, tu es condamné en tout cas à 8 ans de prison ferme.
C'est ça.
Tu ressors en juillet 2019, tu as effectué 70% de ta peine.
Ouais.
Ça se caractérise comment ces années de prison ? Comment ça se passe ? Tu le disais, il y a cette première fois où tu rentres et tu découvres tout ça. Ensuite, tu es obligé de t'y habituer, tu n'as pas le choix.
Ben, très compliqué. Au début, tu n'y crois pas, tu regardes, le temps ne passe pas, tu dors beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Il y a des prisons, il y a la douche en cellule, d'autres prisons, il n'y en a pas. Donc, tu t'habitues aussi au niveau de l'hygiène parce que quand il n'y a pas de douche en cellule, c'est la douche un jour sur deux. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte. Le bruit quand tu es en prison, le bruit des clés, le bruit des portes, le bruit des détenus qui hurlent, tu ne sais pas pourquoi. Ceux qui mettent de la musique toute la nuit, parce qu'il y en a, ils mettent de la musique toute la nuit. Même tu l'insultes au barreau, il ne va pas couper sa musique, tu ne vas pas le croiser. Donc, tu as tout ça, tu as ce choc qui est violent. Tu as l'enfermement. L'enfermement, les 4 saisons. Donc, en hiver, il fait froid. En été, tu as l'impression que tu es dans un four. Tu as tout ça, tu as les parloirs aussi. Parce que là, tu te rends compte que tu as aussi enfermé ta famille. Parce que ta famille, elle vit au rythme de ta vie à toi. Donc, ils vont prendre le temps de venir au parloir. Ils vont pas être bien. De voir ton enfant grandir au parloir aussi, c'est très compliqué parce que ma fille, la pauvre, elle a pas demandé à avoir un papa qui est en prison. Donc, de ses 8 mois à ses 5 ans, elle voit son père en prison. Donc, moi, je la vois grandir en prison. Donc, quand c'est les premières rentrées scolaires ou autres, ben, y a tous les papas qui sont là. Toi, t'es pas là. Quand elle est malade, ben, c'est à travers ton téléphone que tu vas la consoler. Donc très compliqué l'incarcération. Très dur, très triste. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle et que toute personne qu'on fait de la prison vient pas jusqu'à présent me dire Adama, tu mens, parce qu'ils savent au fond ce que c'est la prison. Tu sais, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de dur, il va sortir, il va vouloir te montrer le contraire, tu vois. Mais il va pas te dire j'ai souffert, j'ai pleuré. On a assumé la prison, mais c'était très dur, c'est très compliqué. Et les gens, faut qu'ils se rendent compte que c'est pas TikTok, c'est pas les réseaux sociaux la prison. Quand tu es enfermé dans une cellule, tu te rends compte que la liberté n'a pas de prix.
Et ce qui est d'autant plus dur pour toi, c'est que tu vas perdre ton père pendant que tu es en prison. Tu le dis, tu n'as même pas pu lui faire de vrais adieux et tu as juste pu aller le voir à la morgue brièvement. Comment tu vis cet événement? Et en tout cas, j'ai cru comprendre que c'est ce qui marquait le déclic chez toi.
Aussi, ce qui a marqué le déclic, c'était ça, c'est que lorsque j'apprends que mon père il a un cancer et que quelques jours avant, on a une longue conversation où il me parle de la vengeance. Il me dit, tu sais, depuis des années, je t'ai déconseillé de te venger. Après, la famille, ça reste la famille, c'était plus fort que toi, t'es passé à l'acte. Mais aujourd'hui, cette vengeance, ça t'a rien apporté. T'es en prison depuis toutes ces années, ta fille, elle a besoin de son père, ta mère, elle a besoin de toi, tes frères et sœurs. Donc, il me disait un au revoir sans me dire les choses, tu vois. Mais je l'ai senti. Et son seul souhait, c'était de me voir à l'hôpital. Donc, j'ai fait une demande pour aller le voir à l'hôpital. La demande, elle est refusée. 3 jours après, il est parti. Et toi, tu te rends compte à ce moment-là que tu as perdu le pilier de la famille. Que le papa, celui sur lequel, même si tu as 30, 40 ans, tu te reposes ou tu as des questions à lui poser, cette personne-là n'est plus. Et à ce moment-là, tu te dis, la vengeance, ça m'a servi à quoi au final? Parce que je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas pu assister au dernier moment de sa vie où il avait le plus besoin de moi. Lui, toute sa vie, il était là pour moi. Ouais. Et le jour où il a besoin de moi, je ne suis pas là, je suis en prison. Et après, on peut me dire, ouais, mais ils auront pu te laisser sortir. Mais même si je serais sorti, lui dire au revoir, ça aurait été combien de temps? 30 minutes. Il n'avait pas besoin de soi. Moi, j'avais besoin de l'accompagner jusqu'à sa fin de vie. Je n'ai pas été là. Je n'ai pas été à l'enterrement aussi parce qu'il est enterré au Sénégal. Donc, tout ça aussi, ça te met des claques et ça te met dans une réalité. Tu te dis, au final, cette vengeance, ça t'a apporté quoi? T'a apporté rien, vraiment.
Je suppose qu'il y a aussi double culpabilité parce que là, comme tu le disais, il y a le pilier de la famille qui part. Donc, il y a ta maman qui se retrouve forcément seule. Elle a un fils qui est décédé, enfin qui est tué, un fils qui est en prison, son mari qui est décédé. Comment tu le vis, ça? Est-ce que tu en parles avec ta mère ou est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler plus tard?
Bien sûr, tu sais, je le vivais très très mal parce que même quand c'est moi qu'on appelle, parce que moi j'avais laissé mon numéro à l'hôpital, c'est moi qu'on appelle pour m'annoncer que mon père il est mort. Ça veut dire qu'il fallait que derrière j'appelle ma mère. Et tu sais, quand tu appelles pour annoncer ça et que tu entends des cris, tu sais, je le souhaite à personne, mais c'est terrible. Les gens ne se rendent pas compte que la vie, elle est trop précieuse et il se passe des événements, il faut être là. Et je m'en veux, je m'en voulais. Aujourd'hui, je m'en veux un peu moins parce qu'il faut vivre avec. Je m'en voulais de ne pas être présent. Pas être présent ce jour-là. Parce que quand toutes les familles elles arrivent à la maison, forcément, on cherche les aînés. Ilou Adama, c'est la honte. Tu n'es pas là. Tu es en prison pendant que ton père est mort. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça qui rentre. Et ta mère, elle est triste. Et elle n'a plus son mari, mais elle a ses enfants et elle a besoin de ses aînés. Et moi, je n'étais pas là. À travers un téléphone, tu ne peux pas consoler une maman. Tu ne peux pas la prendre dans tes bras. Et quand je suis sorti de prison, je l'ai vu, son état physique, son état mental et même la fatigue. Et aujourd'hui, comment je la revois, je me dis, voilà, on va dire, je suis comme son bâton de vieillesse, on va dire, entre guillemets. Elle peut s'appuyer sur moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'essaye de la rendre heureuse au maximum que je peux. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer les choses, mais on peut améliorer les choses pour le futur.
Et c'est important d'avancer.
Il faut avancer avec tout ça.
Et c'est ce que tu vas faire en créant l'association SADA, qui c'est porte ça. Le nom de ton frère qui a été tué. Avec ton asso, tu essaies de faire comprendre aux jeunes qu'ils ne sont pas obligés de participer à des RICS en solidarité avec leurs amis. Je cite, qu'est-ce qui les oblige d'être dans les RICS? Qu'il n'y a pas assez de valorisation autour de cette jeunesse. La seule manière de se valoriser, c'est en se battant. Quand on se bat, on se fait un nom. Et quand on se fait un nom, pour eux, on se fait respecter. Mais je leur fais comprendre que le respect ne passe pas par la violence. Comment elle te vient l'idée de la création de cet asso et comment ça se passe?
En fait, moi, quand je sors de prison, clairement, je veux m'occuper de ma famille, je veux disparaître. Moi, je veux pas. C'est ce que je fais aujourd'hui, je n'étais pas programmé à le faire. Mais comme on dit, après, ta destinée sera ta destinée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, un soir, je tombe sur une vidéo d'un jeune qui se fait lyncher. Je poste un message sur Facebook et le message, il est relayé par beaucoup de personnes. À l'époque, j'avais des 30 j'aime et là, je me retrouve avec 700 ou 800 j'aime, des partages, des personnes qui m'écrivent. Après, je fais une interview avec le Media Street Press où je raconte mon histoire et ça fait un boom sur les réseaux. La vidéo elle devient virale, elle dépasse le million de vues rapidement. Pardon. Et après, par la suite, je réfléchis, je vois les messages de personnes venant de toute la France qui me disent Adama, j'ai perdu mon fils, Adama, j'ai perdu mon frère. Après, je me suis dit, en fait, il y a des souffrances partout, des Adama Camara, on a partout en France. Pourquoi pas donner la parole à ces familles-là? Pourquoi pas donner la parole à ces jeunes? Et de là, j'ai créé la série qui s'appelle Rix,
Avec France Télévisions,
avec France
une
TV
série
slash.
de, c'est ça, une série de commentaires qui va à la rencontre de ceux et celles
Ouais.
dont la vie a basculé à cause des risques. Des
Voilà, avec
risques.
le Media Street Press et France TV Slash, on a fait la saison 1, la saison 2. En fait, mon association, je l'ai créée en 2020 parce que, en fait, même plus jeune, je voyais manquer beaucoup de choses au quartier, tu vois. Et moi, on va dire, l'un de mes rêves les plus grands, c'est que chaque année, on voyait des gens partir en vacances. Nous, on n'avait pas les moyens d'aller voir la mer, tu vois. Et la première action que j'ai pu faire, c'est que je me suis dit, dès que je vais avoir une asso, dès que je vais être grand, toutes les daronnes que je vois au quartier, j'aimerais les ramener à la mer, juste une journée. Et je l'ai fait. La première année, on a ramené des mamans à la mer. Et ce qui m'a touché, c'est que quand il y a des mamans, elles sont arrivées à la mer, et qu'elles ont mis les pieds dans l'eau et qu'elles sont venues me voir et en larmes, en me disant, tu sais, Adama, depuis que je suis en France, j'ai jamais vu la mer.
C'est donc
Et je me dis, les mecs, à quel moment, au bout d'un moment, on fait tout ce qu'on a pu faire au quartier, on a fait souffrir nos mamans, on part en vacances, nous. Nous, on part en
non,
vacances, tu vois, chaque année, on part en vacances.
non.
À quel moment on ramène nos mères en vacances? Même si c'est pas en vacances, ne serait-ce qu'une journée à la mer. On l'a commencé en 2020, 21, 22, 23. Inch'Allah, cette année aussi en 24. Chaque année, en fait, je me dis, je vais faire ça. Donc, ramener les mamans à la mer, c'était ma première mission. Je l'ai fait. Après, recréer du lien entre les mamans, parce que les mamans, elles ont plein d'idées. Elles ont envie de faire plein de choses, mais on ne leur donne pas l'occasion de le faire. Donc, cette association, comme je dis toujours, c'est solidaire. Agissons déjà aujourd'hui. Ça s'appelle SADA, mais c'est une association pour les gens du quartier, pour les mamans. C'est moi le président de l'association, mais comme je l'explique toujours, l'association, elle est à tout le monde. Demain, j'ai des mamans qui veulent faire des projets, elles veulent passer par mon asso avec plaisir. Je les accompagne dans ces projets-là. Et donc, voilà, souvent, on fait des repas associatifs, souvent, on crée beaucoup de choses. Là, bientôt, on aura un local parce que depuis qu'on a notre asso, malheureusement, on n'a pas eu de local. Là, on va avoir un local et je sais qu'on va pouvoir encore approfondir le travail qu'on mène. Et avec cette association-là, on fait de la prévention aussi, un peu partout en France, de l'accompagnement au deuil. Donc, on s'est formé aussi pour faire de l'accompagnement au deuil, pour pouvoir accompagner ces familles qui sont en détresse et en souffrance.
Est-ce qu'au moment de créer ton asso, il y a ce qu'on appelle, j'en parlais hier avec Max Gomis, mais c'est un sujet qui est revenu souvent avec mes invités, ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, Dama Camara, au moment de créer ça, tu te sens légitime pour faire ça, ou est-ce qu'il y a plein de questions qui te traversent la tête où tu te dis, je suis peut-être pas forcément la bonne personne pour faire ce truc-là?
Bah, tu sais, moi, quand je crée l'association, c'est parce qu'il n'y avait pas d'asso dans mon quartier. Il y avait plein d'associations dans tous les quartiers autour de chez moi. Chez nous, il n'y avait pas d'asso. Et vu que je commençais à prendre la parole, à commencer à faire des actions, je me suis dit, il faut que ça soit professionnel et cadré. Donc, je n'ai pas plus de légitimité, pardon, que toi. Ou que des gens autour de nous, on a chacun notre légitimité et chacun peut le faire. Après, le syndrome de l'imposteur, de celui qui joue un rôle ou autre, si tu joues un rôle, à un moment donné, ça va s'arrêter. Au bout d'un moment, tu vas arrêter de jouer un rôle et ton vrai visage, ton vrai personnage, il sortira. Donc moi, je ne me suis pas posé de questions quand j'ai fait. Je me suis dit, je fais parce qu'il n'y a pas. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui dans mon combat. Il n'y avait pas de série sur les Rix. Du moins une série, on va à la rencontre des familles, on va faire des témoignages, parce que souvent, il y a des documentaires, il y a des choses sur les Rix, mais ça reste de la fiction. Moi, ce n'est pas de la fiction. Quand tu as une maman qui pleure, qui dit mon fils s'est fait tuer et qu'elle verse des larmes, elle joue pas un rôle. Elle parle de sa vraie vie. Quand tu as un jeune qui prend une balle de fusil à pompe, son mollet est déchiqueté, on filme, même si c'est flouté, c'est son mollet. Aujourd'hui, il est amputé. Donc, je me suis dit, ce qu'il n'y a pas, j'essaye de le faire. comme l'accompagnement au deuil. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. On a besoin d'aller voir des psys. Ça, faut arrêter de dire oui, les gens de quartier ou les noirs ou les arabes, c'est pas dans notre culture. Mais on a besoin de parler. Dans toute culture, il faut parler pour se sentir mieux, pour aller de l'avant. Donc aujourd'hui, on essaye d'amener ce qu'il n'y a pas.
Et c'est quoi le constat que tu fais de la jeunesse d'aujourd'hui ? Il y en a souvent qui disent que la jeunesse, en fait, elle n'est pas plus violente qu'il y a 20 ans, que c'est juste qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus médiatisé qu'il y a 20 ans. Est-ce que toi, qui es acteur sur le terrain, tu fais le même constat ou tu trouves vraiment que cette jeunesse, elle a changé ?
Bah, en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on banalise un peu plus la violence. La violence, il y en a toujours eu, mais il ne faut pas se mentir aussi. C'est qu'avant, les gens, ils se battaient avec les poings. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont le couteau facile. Et ça, il faut arrêter de se mentir. Moi, à mon époque, je vais avoir 36 ans. À mon époque, c'était rare que quelqu'un mette un coup de couteau à quelqu'un. Aujourd'hui, tu n'entends que ça. Des coups de lame, des coups de marteau. Tu n'entends que ça. Donc, pour moi, si on doit comparer de avant à aujourd'hui, on dira oui, ils sont un peu plus violents parce qu'aujourd'hui, ils utilisent facilement les armes. Mais à notre époque aussi, c'était très violent. Mais nous, c'était à coups de poing. Donc voilà.
Et c'est quoi qui revient dans le discours des jeunes ? Qu'est-ce qu'ils t'expliquent, ce que tu rencontres ? Pourquoi ils tombent là-dedans ? Et toi, tu leur dis quoi, du coup, pour qu'ils sortent de cette sphère, en fait ?
En fait, tu sais, quand les jeunes... souvent, on dit « Ouais, mais c'est pas nous, c'est eux. » C'est pas nous, c'est eux. C'est eux, ils veulent se battre et nous, on va pas se laisser faire. Des fois, je fais un quartier la veille, le lendemain, je fais l'autre quartier avec lequel ils sont en rivalité. Et je vois les mêmes jeunes, moi. Je vois les mêmes jeunes, des fois j'ai l'impression j'ai juste changé de pièce parce qu'ils sont habillés pareil, ils se ressemblent, ils parlent pareil. Donc c'est ça qui est triste, c'est que je dis en fait on se bat contre nous, c'est nous contre nous.
Ouais, c'est les deux pièces du même face.
Mais bien sûr. Et après je leur explique que moi je leur fais pas la morale parce que depuis que j'ai commencé, je me suis dit je ne serai jamais le rôle du grand frère qui vient faire la morale. Je ne fais pas la morale. Même à mes propres petits frères, je ne leur fais pas la morale. Par contre, je t'avise des choses. Parce que j'ai vécu des choses, je vois des choses et je sais la finalité de cette chose-là. C'est ce que je leur dis aux petits frères. Je leur dis, vous savez, dans tous les cas, il y aura soit la mort, soit la prison, soit le handicap. Et dans tous les cas, vous allez embarquer votre famille dans cette situation, dans cette galère-là. Quelqu'un qui réussit dans sa vie... il va être fier d'être à côté de ses parents. Ses parents vont être fiers d'être à côté pour montrer, voilà, mon fils a réussi. Demain, même si tu vas en prison, si tu n'es pas fier, ta mère, elle ramènera toujours ton sac de linge. Et c'est ce que j'explique aux jeunes. Au final, vous vous battez pourquoi ? C'est quoi la cause qui fait qu'aujourd'hui, vous vous battez ? Même s'il y a une cause pour vous qui est valable, la vie humaine, elle vaut plus que vos petites causes que vous avez. Donc la réalité, elle est là. Donc moi, j'essaie de faire prendre conscience des conséquences.
Et le message, il est entendu. Est-ce qu'il est les jeunes, en tout cas, ils t'écoutent, ça, c'est sûr.
Ouais.
Parce que c'est ce que j'ai lu. J'ai lu plusieurs articles avant pour préparer cette interview. Et ce qui revient, en tout cas, dans chacun des articles, c'est partout où tu passes, on t'écoute. C'est une heure vraiment où les jeunes, ils prennent plaisir à t'écouter.
Bien sûr.
Mais est-ce que derrière toi, tu vois le changement sur le terrain, entre guillemets ?
Tu sais, à chaque fois que je fais des interventions, souvent, on me dit c'est rare de tenir 2 ou 3 heures de conférence où les jeunes ne parlent pas, ils t'écoutent. Et je leur dis, c'est parce que moi, quand je viens, je me livre à eux. Je me livre et je leur parle vrai. Je suis pas là pour je suis pas là pour les juger. Je suis pas là pour leur pointer du doigt, dire que vous êtes comme si... Moi, je juge pas. Je veux même pas savoir ce qui se passe. Moi, je vous parle de ce qui va arriver si vous continuez. Et de là, tu as des jeunes qui écoutent, tu as des jeunes qui réfléchissent. Tu as des cas où tu as des jeunes qui vont changer, qui vont basculer, qui vont vouloir faire autre chose. Et tu as aussi des jeunes qui vont faire le choix de... continuer. Mais je les revois souvent, ces jeunes-là, où ils m'écrivent des courriers quand ils sont en prison. Ils disent, ouais, j'avoue, t'avais raison. C'est la vie.
Il y a également l'écriture du livre, numéro 55-852, qui est ton numéro d'écrou. « À vouloir venger mon frère, j'ai failli tout perdre ». Dans ce livre, tu racontes ton long parcours en maison d'arrêt, tes amitiés et tes tensions avec les prisonniers, les surveillants, la justice, le drame et l'incarcération aussi de ton frère Daouda, qui a été injustement incarcéré. Comment elle te vient l'idée d'écriture de ce livre ? Combien de temps ça t'a pris ? Et comment, pour les jeunes qui nous écoutent, comment on décide d'écrire un livre ? Comment ça se passe ?
En fait, tu sais, quand je sors de prison et que ma vidéo de Street Press elle tourne, je suis invité par une journaliste qui présentait le grand journal à l'époque, Maïtena. Et quand je la rencontre sur Paris, on prend un café, on échange. Elle me dit, franchement, ton histoire, elle est touchante. Ce que tu veux faire aussi, c'est touchant. Mais c'est quoi tes supports? En gros, c'est que la musique, parce que moi, je fais du rap. Elle me dit, moi, perso, j'aime pas le rap, j'écoute pas du rap. Tu vois, en tant que bobo parisienne, à part Kery James, moi, t'as vu, le rap, ça me parle pas. Elle me dit, mais par contre, si demain, t'écris un livre, que soit un bobo parisien ou un mec de quartier, tout le monde pourra le lire. Elle me dit, moi, je lui dis ça, après, tu réfléchis, tu fais ce que tu veux et tout. Après, j'ai OK. Donc, quand je pars, entre-temps, bah, comme je suis sorti, je n'étais pas condamné. Quand je prends les 8 ans, je retourne en prison. Du coup, quand je retourne en prison, j'ai du temps. J'ai pris 8 ans, j'ai déjà fait 4 ans. Il me reste encore, ma fin de peine, elle est dans à peu près 3 ans. Parce que quand j'arrive en 2018, ma fin de peine, elle est en 2020. Tu vois, tu te dis, t'as encore 2021 même, tu te dis, t'as encore beaucoup. Et après, je me dis, vas-y, pourquoi pas. Je commence à écrire. J'écrivais mon manuscrit. Et après, quand je suis sorti, je me suis lancé dans la série RIC. Ça a un peu ralenti l'écriture de mon livre. Mais après, j'ai continué. Je me suis dit, j'ai commencé quelque chose, il faut que je le termine. Et après... J'ai une maison d'édition, une première qui m'avait invité, qui n'a pas pris le temps de lire mon manuscrit. Ils m'ont dit, ouais, nous, chez nous, tu racontes ton histoire à quelqu'un et après, la personne va s'isoler pendant 2 mois. Elle revient, elle sort le livre. Mais on te fait une avance de 20 000 euros, tout ça et tout. Et je suis venu, j'ai dit, mais j'ai écrit un manuscrit, tu vois. Oui, mais nous, ce n'est pas notre politique. OK ? Je suis OK. Je dis, bah, je vous donnerai une réponse. Et quand je quitte le rendez-vous, je me dis, mais... Tu sais, ils prennent même pas le temps de lire mon manuscrit. Tu sais, c'est un manque de respect quand même.
Bah oui.
Tu vois, et ils me parlent d'argent. Tu crois que je fais ça pour l'argent? Donc, parce que tu m'as proposé une somme. Donc, en gros, on s'est dit, ouais, le mec, il sort de prison, il est peut-être en galère, il a besoin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, mais c'est ma vie quand même, c'est mon histoire.
Un mépris de classe.
Tu vois, un mépris de classe. Pourquoi un mec de quartier, on peut pas lire son manuscrit? Je dis, vas-y, laisse tomber. Je vais le sortir moi-même. Et je partais dans une émission et j'ai rencontré Maïr. Il a ouvert une boîte qui s'appelle La Grenade chez Gisèle Attès. Donc, on avait échangé. Il m'a dit, vas-y, on se prend un café un jour, si tu veux, on en discute. Lui, il sortait le livre d'Oxmo Puccino à l'époque, ce jour-là. Et après, on s'est vu, on a discuté. Je lui ai dit, moi, j'ai écrit un manuscrit, tout ça. Et vas-y, en bon mec de quartier, je l'ai tout envoyé par WhatsApp. Tu vois, je l'ai tout envoyé par WhatsApp. Et il me refait un rendez-vous. Il me dit, ouais, franchement, et tout... C'est fort ce que tu as écrit. Il me dit, c'est fort. Il me dit, franchement, moi, tu as vu, je vais garder ton manuscrit. Je ne vais pas le changer. Je vais pas... Et il me dit, on va juste corriger certaines choses. Sinon, je le laisse tel qu'il est. Et après, on a fait du travail chez lui. Et j'ai humainement, il m'a beaucoup appris. Et je le remercie encore aujourd'hui parce qu'il m'a permis de sortir ce livre. Parce qu'après ce premier rendez-vous, j'aurais pu dire, vas-y, laisse tomber. De toute façon, ce n'est pas pour nous. C'est pas pour nous et ils te montreront toujours que t'es pas le bienvenu. Et au contraire, non. Lui, il m'a ouvert la porte de pouvoir écrire un livre et mon livre, il est sorti chez Gisèle Attès et j'en suis fier aujourd'hui. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre en tant que déjà dyslexique, tu vois, galéré. Pour moi, c'est une victoire. Et ça montre aux gars de quartier, aux jeunes et aux moins jeunes, quand on veut, on peut. C'est le travail qui va faire que tu vas réussir. Quelque chose. Faut pas se fixer des faut pas en fait se mettre des barrières. Faut pas se dire parce qu'on est des Renois ou parce qu'on est des Rebeux, on peut pas le faire, c'est pas pour nous. Comment ça? C'est pour toi, c'est pour moi aussi. On peut aller là où on veut, il y a pas de frontières en fait. L'intelligence n'a pas de frontières et tes idées non plus. Donc quand tu as envie de faire quelque chose, il faut le faire. Donc pour moi, c'est une victoire là, j'ai pris goût, je prépare un deuxième livre.
Un deuxième livre.
Inch'Allah, qui va sortir d'ici fin d'année, j'espère.
On peut avoir le titre ou c'est encore secret?
Franchement, secret ou pas, mais moi, je veux rester sur la thématique des RICS. J'avais déjà un premier titre, j'ai dit j'allais l'appeler Ça vient d'où? Parce que ça part tout souvent de ça, une embrouille. Ouais. Ça vient d'où? Ouais, c'est comment? Ça vient d'où? Et de là, je raconte ma jeunesse, du moins quand j'étais dans les RICS. Et j'essaie d'apporter aussi un éclairage aussi sur le combat que je mène aujourd'hui et comment les jeunes voient les choses.
Tu le disais, ta mère, elle ne sait pas lire. Est-ce que ton livre, elle a pu quand même avoir écho, raconter que, Parce qu'elle elle aussi, elle doit être super fière aujourd'hui.
Ben oui.
Surtout avec tout ce qu'elle a traversé.
Bien sûr.
Elle a quand même beaucoup souffert.
Beaucoup.
Aujourd'hui, ça doit être une victoire pour elle aussi.
Ben, elle a fait des cours de français entre-temps, tu vois. Elle a fait des cours de français. Et c'est vrai que quand je lui ai donné le livre, elle était fière. Elle était contente. Elle dit, au moins, on a vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu te bats. Et ce qui l'a rendue même le plus fière, c'est qu'au début, elle ne venait pas à mes événements. Tu sais, elle n'arrivait pas. C'était trop dur pour elle. Mmh. Et quand on a fait la saison 2 de la série Rix, on l'a présentée à Garges, dans ma ville. Il y avait à peu près 300 personnes. Et ce jour-là, ma mère, elle est venue, elle était en première ligne. Tu vois, j'ai réservé pour les mamans du quartier, c'était tout devant. Et après, quand elle a vu les familles à la fin sur scène pleurer, elle a vu toutes les autres familles qu'on accompagne. Le lendemain, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, en fait, je comprends et c'est bien ce que tu fais. Parce que ce que nous, on n'a pas eu aujourd'hui, toi, tu l'as, tu le donnes aux autres. Parce que nous, on n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu de personne qui... On a eu du soutien au début, bien sûr. Hein. On a eu du soutien quand il y avait les marches, les gens ont fait des cagnottes et tout. Mais après, quand les mois passent, tu te retrouves tout seul avec ta famille et c'est là que tu as besoin de soutien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui on le fait. Donc, elle est fière aujourd'hui, elle est contente.
Ta mère, c'est la dame la plus forte du monde, tu dirais?
Ouais, bah oui. Pour moi, parce que tout ce qu'elle a vécu... Elle ne s'est jamais plaint. Elle ne s'est jamais plaint. Elle n'a jamais dit pourquoi. Pourquoi Dieu il nous met toutes ces épreuves-là. Elle verse ses larmes et après, elle part de l'avant.
Elle ne vous en a jamais voulu aussi. Enfin, en tout cas, c'est...
En tout cas, non.
J'ai l'impression qu'elle vous a toujours accompagné.
Elle nous a toujours accompagné, toujours cet amour-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que tout ce que je fais, je n'oublie jamais ma mère. Tu vois, aujourd'hui, je suis parti au Sénégal avec elle, tous les deux...
Ouais,
on était dans l'avion, elle était bien quoi. Elle a dit c'est la première fois que je kiffe un voyage, tu vois. On l'a mis bien. C'est important. Aujourd'hui, c'est ce qui nous reste. Elles ont trop souffert, nos mères. C'est ce que je dis aux jeunes. Je dis plus jeune, on aime bien dire ouais, quand je suis bien, je vais mettre bien ma mère. Mais on se met d'abord bien avant de mettre bien nos parents. Faut pas oublier. C'est nos parents, ils ont vécu tellement de choses, il faut leur rendre.
Comment ils sont, Adama Camara, aujourd'hui? J'ai l'impression d'avoir un homme apaisé face à moi.
Ouais, moi, je suis apaisé. Je suis bien, moi.
Tranquille.
Je suis tranquille. Je cours à gauche, à droite. Je fais passer mes messages. Je parle avec ma fille. Ma fille, elle est grande. Je m'occupe aussi de... Je suis père aussi, tu vois. Faut pas oublier. Parce que même pour elle, des fois, tu vois, tu vas à gauche, à droite. Tu passes à la télé. Tu fais ci, tu fais ça. Faut pas oublier aussi que, voilà... Elle aussi, elle a vécu aussi toutes ces choses-là avec moi.
Elle est fière de toi aujourd'hui, vous en parlez un peu. Elle a 10 ans, tu disais.
Voilà,
elle a
10 ans, ouais.
Petite,
mais elle va rentrer au collège, petite, ça y est, ça a grandi, les CM2, c'est des madames. Non, elle comprend. Donc aujourd'hui, je parle beaucoup plus avec elle, on a une bonne relation, donc on échange. Et non, c'est bien.
Et avec tes frères et sœurs, pareil, ça se passe
Pareil, ça se passe bien, ils sont impliqués dans l'assaut, on fait pas mal de choses ensemble, en famille. Vraiment.
Et c'est quoi les projets pour la suite? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a ce livre, tu le disais, ce deuxième livre que tu es en train d'écrire. Est-ce qu'il y a l'idée d'un long métrage peut-être autour d'Eric ou pas d'ailleurs?
Ouais, on est sur beaucoup de projets, beaucoup de réflexions. Même on parle de Rick saison 3. Rick saison 3, parce qu'on avait deux saisons, une saison 1, saison 2. Là, on parle pour la saison 3. Plein de projets avec des villes, des préventions, des écritures de courts-métrages. Mmh. Aussi avec des jeunes, des modules qu'on a montés avec les CM2. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de prévention aussi avec les CM2. Et après, à titre personnel, oui, peut-être un long métrage, peut-être une autre série ou quelque chose, toujours dans la lignée du combat.
Tu ne te fixes pas de limite?
Aucune limite.
Quel conseil t'aimerais donner aux jeunes aujourd'hui qui nous écoutent? Comme je te le disais, nous, quand on a créé cette émission, on l'a imaginé. C'est vraiment pour raconter le parcours des gens, mais au-delà de raconter leur parcours, c'est les périodes sombres de leur parcours, parce que pour montrer aux jeunes aussi que tu peux traverser des périodes très sombres, mais quand même t'en sortir. Comme tu le disais, toi aujourd'hui, t'es un homme apaisé avec énormément de projets, et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes, et ceux encore qui sont encore dans les bagarres, les rixes, ou dans d'autres choses, comme la vente de drogue, etc.
Bah, moi, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est que chaque acte a des conséquences. Il ne faut pas oublier que derrière, on a quand même une famille et qu'il ne faut pas se fixer de limites. Si tu as envie de réussir dans tout ce que tu as envie d'entreprendre, les moqueries, les regards des autres, ne calcule pas. Va à fond dans tes projets, dans ce que tu veux faire. Ne fais pas les choses pour les gens, fais-les pour toi. Si demain, tu veux être, tu veux être pompier, policier, comptable, ne te fixe pas de limites, va à fond. Même si tes potes ils disent ouais, tu vas devenir ça, toi. Ouais, je veux devenir ça. Et fais-le.
On
C'est le
peut
conseil.
tout faire en tant que jeune issu de l'immigration et des banlieues.
Oui, pourquoi pas? Parce que tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui me disait, ouais, j'ai envie d'être policier, mais ça va être mal vu au quartier. Je vais être peut-être stigmatisé, ou on va dire que je suis une indique ou une balance. Il n'y a pas besoin de policier déjà pour être une indique ou une balance. Hein, tu
C'est
vois. Il y en
vrai.
a beaucoup dans les quartiers. Et je dis, fais ce que tu as envie de faire. Tu dois rien à personne. Tu vas pas te marier avec tes potes. Et même, tu as le droit de te marier avec tes potes si tu veux. Mais si tu as envie de le faire, fais-le. Et si tu as envie de changer les choses quand tu es à l'intérieur, fais-le. C'est ça la réalité. Moi, je pense qu'on peut tout faire. Ce qu'on a envie de faire, on le fait.
On se fixe pas de limite.
Ça fixe pas de limite.
On va finir avec un jeu. J'ai un jeu pour mes invités que je fais habituellement. Je vais te donner des débuts de phrases
Ouais.
et tu vas devoir les terminer. C'est bon pour toi?
Carré, vas-y.
La rue pour moi, c'est...
La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches, comme dirait Kerry James dans Deux Issues.
Avoir grandi en banlieue en France aujourd'hui, c'est...
C'est d'être stigmatisé parfois, de fouteur de troubles, mais il y a de belles choses dans les quartiers populaires.
Je trouve que les politiques d'aujourd'hui sont...
Sont trop autoritaires. On nous donne trop d'ordres, on nous dit trop comment bien se comporter, comment bien faire, alors que c'est pas le bon exemple.
La religion pour moi, c'est...
La religion, c'est l'apaisement, c'est l'amour, c'est le savoir vivre ensemble et le respect.
Le social, c'est ce qu'il y a de plus...
Riche et de plus vrai pour moi. Parce que quand on est dans le social, on est dans le cœur des foyers, le cœur des gens. Et pour moi, il n'y a pas plus riche que ça.
Si Saada m'entend, j'aimerais lui dire que...
Tu nous manques.
Sans la prison, aujourd'hui, je serais...
Je serais peut-être chauffeur-livreur. Peut-être que je serais moins impacté par la vie, parce que la prison, ça te marque à vie quand même.
Le rap, c'est un moyen de...
Communication.
Monsieur le procureur, vous avez été... Parce qu'il y a cette... On n'en
Vous
a pas
avez
parlé,
été
mais
bon.
il y a un
Vous avez
procureur
été bon
qui...
et je vous remercie. Je vous avais envoyé un livre aussi qu'il a reçu et il était fier.
Assa Traoré est une...
Une personne qui se bat pour son frère et elle continue à se battre.
Les RICS, c'est pour...
C'est pour nous mener à notre perte.
Ma fille, c'est ce qu'il y a de...
De plus cher et important.
Le plus dur quand on est une personnalité publique, c'est...
C'est de dire aux gens qu'on n'est pas des stars.
Maman, j'aimerais te dire que...
Je t'aime.
Le futur pour Adama Camara s'annonce...
S'annonce bien, j'espère. Du moins, s'annonce avec beaucoup de travail. Mais on fera le maximum pour donner le relais, parce que c'est l'objectif. Adama Camara, au bout d'un moment, il sera fatigué. Il faut que les jeunes derrière prennent la relève.
Mon interview du jour, elle s'est...
Très bien passé, c'était top, c'est passé vite.
Bah merci, c'est vrai que c'est passé très très vite. Bah
Merci
merci
en
à
tout cas,
toi.
moi j'ai kiffé.
Bah moi aussi j'ai kiffé, franchement, parcours inspirant, ça fait longtemps que je voulais te recevoir et
Merci beaucoup.
merci vraiment les messages que tu véhicules et tout ce que tu dis, je trouve ça super important et c'est important que
Merci.
des gens puissent le faire et qu'on te laisse la possibilité
Merci.
de le faire. Juste une dernière question, est-ce que tu as
Dis-moi.
peur pour l'avenir, pour ce que devient notre pays au fur et à mesure? Est-ce que toi c'est quelque chose qui te fait peur ou pas du tout?
Moi j'ai peur que lorsqu'on se rend compte des choses, il soit trop tard. Et j'ai peur que certains jeunes, lorsqu'ils vont se rendre compte de tout ce qu'ils font, de leurs erreurs, il soit trop tard. C'est pour ça que je leur donne des conseils, je leur parle, je leur déconseille de faire beaucoup de choses. Parce que une fois qu'on est pris dans certaines situations, d'en sortir, c'est dur. Souvent, il y a des jeunes qui rentrent dans des stups, ils se disent, je vais être guetteur pour faire de l'argent. Ils montent, et à un moment donné, ils s'endettent. Ils doivent de l'argent. Moi, j'ai des mamans, des fois, qui me disent, j'ai fait un crédit pour que mon fils reste en vie. Parce que malheureusement, il s'est fait prendre en voiture avec beaucoup de drogue. Malgré qu'il soit en prison, on lui demande de rembourser des sommes énormes. Et c'est soit il rembourse, soit on le tue. On est venu me le dire et j'ai fait un crédit pour rembourser. C'est ça la vie? Non. Donc, j'ai peur que certains jeunes rentrent dans des choses qu'ils ne vont pas assumer, ils vont être dépassés.
Le combat, en tout cas, c'est aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme on dit,
Et même quand je serai plus là, tu
le
sais,
groupe,
même
ça.
quand je serai plus là, j'aimerais que d'autres jeunes prennent la relève, d'autres associations, beaucoup créer des associations, faites les choses, parce que ça viendra de nous, et avec l'aide des autres.
Bah merci en tout cas encore une fois,
Merci à
Adama
toi.
Camara.
Merci.
Merci à Nassif qui était à la caméra et à son collègue dont j'oublie le nom. Mais il y a Nassif qui va me dire ça. Yaku qui était avec Nassif, merci à eux deux. On remercie également Jason qui était à la technique. On remercie Léonard qui a préparé le plateau. Merci à Mon Paris FM de nous laisser la possibilité de faire cette émission. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission, bien évidemment, elle est disponible sur monparisfm.com et sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et même Amazon Podcast. Voilà. Et ainsi que toutes les précédentes émissions qu'on a fait, que ce soit avec Max Gomis, que ce soit avec Abby deux fois, Aziza Boudrar, Bayoussard, Aboutal et j'en oublie. En tout cas, merci
Aboubacar
beaucoup
Sakanoko.
Aboubacar Sakanoko qui est passé aussi récemment. Voilà, on les remercie tous de se prêter au jeu et passez une belle soirée. Faites attention à vous, aimez-vous et sortez de tout ce qui fait mal.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Mon Paris est fait.